Sunderlight Production.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Dans la tête d'un cycliste, où nous allons aborder aujourd'hui un thème d'actualité qui est le matériel utilisé par les professionnels et celui utilisé par les non-professionnels. Avec JP, nous allons balayer, comme nous en avons l'habitude, tout ce qui concerne justement le matériel, l'accessibilité à ce matériel qui nous fait tous rêver devant nos écrans. Quand je dis tous, tout dépend dans quel contexte vous allez utiliser ce vélo. C'est parti.
Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un cycliste, l'émission dédiée à tous les passionnés de vélo sous toutes ses formes. Chaque semaine, Arnaud Mandanini part à la rencontre de celles et ceux qui font le cyclisme pour nous inspirer et nous aider à nous améliorer.
Hello JP.
Salut Arnaud.
Comment ça va?
Ça va très bien et toi?
Bah écoute, ça va, on est au moment où on enregistre cet épisode de Tour de France n'est pas parti, au moment où il va être diffusé, celui-ci est parti, donc j'espère que tu passes une bonne première semaine du Tour. Le Tour, c'est un sujet qui va être un petit peu au centre de cet épisode, puisqu'on va parler matériel pour les professionnels, matériel pour les amateurs, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, ou les passionnés. Quelle est la différence? Comment ce matériel de professionnel est-il accessible? Écoute, qu'est-ce que tu peux nous dire, JP, pour introduire cet épisode autour de ce thème?
Eh bien, c'est un sujet passionnant et dense qu'on va essayer de concaténer et de résumer et de synthétiser, comme on le fait d'habitude, même si ce n'est pas ma qualité première d'être court, en tout cas pas tout le temps. Pour répondre à ce que tu disais, il n'y a pas que le Tour de France déjà, mais même si c'est l'épreuve phare, on est en France, donc on sait que c'est l'épreuve pro qui a quasiment le plus gros retentissement, même à l'échelle de la planète, donc c'est important. Et je pense que comme toi et moi, on aime aussi beaucoup le vélo d'aventure et que c'est un domaine qui est en train de se professionnaliser. On se fera une petite échappée de ce côté-là pour voir si ça fonctionne exactement de la même façon ou pas. Je crois pas, mais peut-être que ça va dériver. Et voilà. Et donc pour réintroduire un petit peu notre sujet de base dans toutes les disciplines sportives où il y a du haut niveau et où il y a de la professionnalisation, il y a un enjeu technique. Sous le terme technique, j'englobe à la fois le matériel et la pratique ou l'entraînement à la pratique. Il y a cet enjeu technique qui est important puisque c'est là où on pousse tous les curseurs à fond. Donc, nous, dans notre podcast de l'atelier, on se concentre principalement sur le matériel. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Pour rester fidèle à nos gimmicks dans le sport automobile ou dans le sport de la moto, dans le haut niveau et dans le niveau professionnel, eh bien on pousse le matériel à fond, mais c'est la même chose dans l'ultra trail, c'est la même chose dans le vol à voile, dans le parapente, dans le tennis. Si Roland Garros s'est terminé il y a quelques semaines, si je te mets dans les mains la raquette exacte du vainqueur de Roland Garros cette année, il se peut que tu aies fort du mal
à la trouver,
à taper correctement la balle sans te blesser. Et c'est un peu là où on va en venir, et on va en venir, s'en éloigner, en reparler. Mais c'est, oui, quelles sont les différences entre le matériel qui est développé pour utiliser par les professionnels et celui qui est développé pour et utilisé par les non-professionnels? Tiens, on va utiliser ce terme-là.
C'est
si
ce que j'allais dire. C'est un très bon terme. C'est un très bon terme.
Amateur, c'est un peu péjoratif. On peut être non professionnel
et avoir du matos.
Et avoir du matos de très haut niveau, mais surtout avoir une attente en termes de performance et de résultats.
Bien sûr, complètement.
Mais je pense qu'il y a une différence. Alors, si j'en reviens à mon sport automobile, parce que c'est peut-être là où je vais pouvoir essayer d'illustrer le gap important qu'il y a entre une pratique professionnelle et une pratique non professionnelle, le gap et puis les ponts, puisqu'il y a toujours une osmose entre ces deux milieux qu'on oppose aujourd'hui à dessein, mais qui s'opposent de toute manière dans le quotidien, parce que sinon on parlerait pas de professionnel et non professionnel. Il y a des ponts. Il y a plein de disciplines. Dans l'automobile comme dans le vélo, il y a plein de disciplines ou de pratiques différentes. Cette variété implique qu'on spécialise. C'est déjà quelque chose d'important. Le véhicule qu'on développe pour faire un rallye raid ou un rallye ou de la Formule 1 ou de la e-Formula est différent dans chacune de ces disciplines, mais il se trouve que dans l'automobile, on va parfois apprendre un petit peu de chacune de ces disciplines pour créer la voiture de Monsieur Tout-le-Monde, la voiture du quotidien, en tout cas pour l'améliorer ou la faire évoluer. Et dans la voiture de Monsieur Tout-le-Monde, il y a aussi de la segmentation qui n'est pas aussi radicale que celle dont on vient de parler. Okay, donc, on va apprendre sur le fonctionnement des pneumatiques dans ces différentes spécialités professionnelles. Et on va, avec cette collecte de data, notre dernier épisode parlait de données, et bien avec cette collecte de données et l'analyse, on va faire évoluer les produits parce qu'on va apprendre. Et donc, apprendre, ça permet d'améliorer. Mais c'est pas pour ça que même si tu as une voiture très sportive avec beaucoup de chevaux, tu auras un pneu de Formule 1 sur ta voiture de tous les jours, parce qu'il y a d'autres contraintes. J'y reviens, hein, mais j'essaie de positionner le débat. Arnaud, tu m'arrêtes si tu veux.
Vas-y, je te suis.
Mais voilà. Donc, la technique apprend toujours beaucoup. Et la différence principale qui va peser sur le matériel des professionnels et le matériel des non-professionnels, c'est le contexte. J'explique. Si tu es coureur professionnel dans l'équipe, celle que tu veux choisir, chez qui tu veux être embauché pour le Tour de France, Arnaud ?
J'irai bien chez Education First.
Alors, te voilà paré d'un magnifique maillot et d'un beau vélo, tu es chez Education First et tu as le contexte d'une équipe professionnelle. Ça veut dire que certes, tu vas subir un entraînement poussé, mais tu vas être dans un contexte qui est que tu as une nutrition adaptée, tu es accompagné, il y a presque plus de personnel encadrant que de coureurs cyclistes. Donc en fait, tout ce qui va être physiologique va être absolument géré et va te permettre de te dépasser.
Ouais, va totalement être pris en charge. En tant que coureur pro, tu es sur tous les aspects logistiques, extérieurs, physiologiques, c'est une prise en charge de 100%.
Énorme, mais elle te permet de te faire mal. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que non seulement on va te préparer à te faire mal, on va t'apprendre à te faire mal, et après on va essayer de t'apaiser quand tu t'es fait mal. Donc ça, ce contexte, il est vrai pour le pilote, puisque tu es pilote de l'Education First, mais il est vrai pour le matériel du pilote aussi. C'est-à-dire que on va demander à un disque de frein, à un pneu, à un cadre de vélo, etc., d'être capable de subir un assaut de puissance ou un assaut de conditions météorologiques, d'utilisation de poussière, de saleté, important. Il va être, on lui demande d'être capable de subir cet assaut-là, sachant qu'on va l'y soumettre sur un temps restreint, soit avant de le remplacer, soit avant de lui faire subir un entretien par un professionnel qualifié qui va dédier tout son temps à ça, qui va utiliser les meilleurs produits qui existent, etc., etc. C'est ça le contexte. Le contexte, c'est que nécessairement, il ne peut pas y avoir une analogie totale entre ce que le matériel d'un professionnel, donc d'Arnaud, dans l'équipe Education First, va exiger, va être conçu pour, et puis le matériel de tout le monde. Et en fait, je dis ça volontairement pour… je l'ai fait dans ce sens-là, c'est-à-dire que j'ai perdu ma voiture entre-temps, parce que dans la voiture, c'est quasi évident pour tout le monde que la voiture de sport automobile, ce n'est pas celle qu'on a entre les mains. Même si aller sur le rallye, classiquement, comme les véhicules doivent être homologués, tu peux acheter presque la voiture de rallye. Mais j'espère que là, tout de suite, maintenant, ça a sauté aux yeux de tout le monde qu'en fait, le vélo, bah, c'est un des sports où tu peux avoir le vélo d'Arnaud Manzanini à l'Education First, le même, mais sans le contexte. Parce que quand tu vas rouler ta sortie de 50 bornes à 35 à l'heure dimanche matin, bah, bizarrement, au mieux, il y a quelqu'un qui t'a fait un plat de pâtes la veille au soir et qui t'a mis les biscottes sur la table du petit déjeuner. Au mieux, comme tu es super sympa quand tu rentres, tu vas avoir un massage. Mais il n'y a rien de garanti. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas le camion. Il n'y a pas quelqu'un qui va te laver ton vélo,
et
qui va remplacer les pièces, etc. etc. Enfin, est-ce que c'est assez clair ce que je veux dire?
Ouais,
c'est-à-dire que
tu as
le même vélo,
clair.
Mais d'une, tu n'es pas le même bonhomme. Tu n'as pas le même entraînement. Tu n'as pas la même surveillance physio. Tu n'as pas tous les autres atouts qui vont te permettre de t'arracher. Par contre, le vélo, il a été conçu, équipé, réglé. Bon, ça, c'est quelque chose qu'on peut changer, effectivement, quand on achète le même vélo, on peut changer l'équipement, changer le réglage, mais il a été conçu pour être utilisé dans un cadre professionnel avec le contexte qui va avec, et on te vend le même, sans le contexte. Et c'est ça qui, à mon sens, fait une grosse différence entre le cyclisme et les autres sports de haut niveau. Alors, bon, s'il y avait quelqu'un, ou si tu te faisais l'avocat du diable, tu me dirais, bah oui, mais dans l'ultra-trail, tu peux avoir les mêmes chaussures que Kylian Jornet. Bon, dans l'ultra-trail, on va être d'accord tous les deux que la partie matérielle, elle est relativement congrue. Du coup, c'est une paire de chaussures, éventuellement un peu de textile technique, dans un sport mécanique, puisque moi, je classe le vélo dans le domaine des sports mécaniques. Hein, je pense que tu seras d'accord avec moi sur le sujet. Il y a une énorme variation. Mais on a parlé principalement de vélo de route. On aurait pu parler de VTT aussi. Les vélos de la Coupe du Monde, de VTT, tu peux les acheter aussi. Encore une fois, le contexte est radicalement différent.
Mais tu vois, la différence aussi, JP, entre le coureur non professionnel et le coureur professionnel, c'est que le coureur non professionnel peut choisir sa monture. Alors que le coureur professionnel, parfois, c'est pas sur ce vélo qu'il aimerait rouler. Tu vois ce que je veux dire?
Bah, parfois ou tout le temps. Je pense qu'il n'y a aucun coureur qui décide de l'équipe dans laquelle il va rentrer en prenant en critère numéro un le vélo. Enfin, moi, je n'ai jamais entendu ça.
Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que parfois, un coureur qui est dans l'équipe depuis pas mal de temps ou qui est néo-professionnel, bah, il sait qu'il a, par des contrats, un vélo entre les mains, voilà, bah, qui n'est pas le plus performant.
Ouais, est-ce que... Aujourd'hui, je pense qu'on a, enfin, je te le dis de la manière la plus spontanée en réaction à ce que tu me dis là. Je sais pas, sincèrement, si dans le contexte actuel et si on restreint au vélo de route, est-ce que sur le parc, il y a un vélo qui est manifestement supérieur aux autres ou pas? Je sais pas si on peut le dire. Alors, ne soyons pas aveugles. On sait qu'il y a la marque Specialized qui performe. Mais est-ce qu'elle performe parce que elle équipe plus de monde, parce qu'elle a plus de surface financière, ou est-ce que parce que les vélos sont vraiment meilleurs? Sincèrement, je saurais pas te répondre avec un regard non biaisé là-dessus. Je trouve que c'est une marque qui apporte des solutions techniques qui sont intéressantes, dont la qualité de produit est plutôt bonne, mais la partie marketing est tellement motrice, est tellement forte que c'est difficile de dissocier les deux. Autant, tu sais, il y a des dans les grandes années de la Formule 1, avant, c'était assez palpable pour tout le monde qu'il y avait telle et telle équipe ou tel et tel moteur qui confiait une supériorité. Okay, tu avais un vrai avantage technique ou technologique. Dans le MotoGP, c'est la même chose. Encore aujourd'hui, on sait qu'il y a des années, des fois, ce n'est pas tout le temps la meilleure équipe parce que les gens font des itérations de leur moteur, de leur mise au point et ça se passe d'ailleurs toujours mieux. Quand le pilote est un fin technicien, on lâche jamais notre avis partagé du fait que le meilleur cycliste, c'est aussi celui qui connaît sa machine et la technique, mais dans les sports mécaniques, c'est toujours comme ça. Autant dans le vélo, moi, je trouve que c'est difficile à dire. Moi, quand je regarde le Tour de France, je me dis pas que tous les mecs qui sont en spé, ils roulent plus vite que les autres, et je crois pas que ce soit vrai, d'ailleurs. Hein. Donc, l'analogie pourrait s'arrêter là. Moi, en tout cas, je la vois pas. Tu vois une supériorité, toi, comme ça?
Non. Après, comme tu l'as dit, il y a la force du marketing qui est derrière. Effectivement, quand tu regardes cette marque SP, bah oui, quand tu regardes des différents championnats ou des différents podiums, elle revient souvent. Alors, effectivement, est-ce qu'elle accompagne les bonnes équipes, qui ont les bons coureurs? Après, oui, tu peux rentrer dans, tu peux creuser énormément, très clairement.
Moi, tu vois, qui préfère Shimano à SRAM, allez, je le dis, c'est un aveu public. Shimano va équiper combien de pourcentage du peloton? C'est radical, quoi. C'est peut-être 80%, je sais pas. Je ne les connais pas, les pourcentages. Et je ne l'ai pas cherché en préparant, mais on va dire que Shimano équipe une part substantielle de la caravane pro cycliste, SRAM une partie moins substantielle et Campagnolo une partie bien moins substantielle. Est-ce que ça veut dire que techniquement les produits Shimano sont largement supérieurs aux autres ou qu'ils confèrent un avantage technologique et donc performantiel? Je n'irai pas jusque-là, même si j'ai un avis sur la qualité des produits, évidemment, je pense pas que ça procure un avantage. C'est juste que Shimano a un pouvoir plus important que les deux autres marques en termes de sponsoring ou de marketing, et donc qui couvre une population plus large du public professionnel. C'est la même chose pour la part des vélos. Alors après, maintenant qu'on a posé tout ce contexte, si on essaye de rentrer dans le détail, bah, comme on peut acheter ces vélos de pro, finalement, la différence entre le matériel des pros et le matériel des non-pros, elle est potentiellement inexistante.
Oui, au jour d'aujourd'hui, effectivement, tu peux effectivement t'équiper très rapidement du matériel de la tête aux pieds, hein, des chaussures au casque, de ce que tu vois devant ton écran sur un grand tour, très clairement, ce qui
On
n'était
est
pas le cas
d'accord,
avant.
donc.
Moi, je suis d'une génération où quand on voyait un tour, que ce soit le Tour de France, le Tour d'Italie ou le Tour d'Espagne, ou une course professionnelle, c'était un matériel qui était quasi inaccessible, où c'était des références. Aujourd'hui, bah, très clairement, tu peux
Aujourd'hui,
t'équiper comme un
tu peux tout
professionnel.
avoir. D'ailleurs, on peut le rappeler, pour qu'un vélo soit homologué dans le Pro Tour, il doit être homologué UCI, et pour qu'il soit homologué UCI, il faut qu'il soit accessible à la vente au public. C'est un peu le même système que le rallye WRC, où la voiture qui doit rentrer, elle doit exister en version commerciale. Enfin voilà. Donc, alors, je sais pas si c'est toujours vrai, parce que j'ai un peu lâché ça, mais c'était vrai à un moment.
Ce qui veut dire que je peux trouver le vélo de Ghana très facilement.
Exactement, mais tu peux même si tu as suffisamment d'argent sur ton compte en banque, tu peux même acheter tous les petits accessoires qui vont, la chape, Ceramic Speed, etc., etc., que tu vas trouver sur les vélos des pros et qui vont faire que si tu pousses tous les curseurs, tu vas vite te retrouver avec un équipement qui va coûter de l'ordre de 10 à 15 000 euros. Ça arrive relativement vite. Maintenant, la question, puisqu'on a dit que finalement la différence n'existait pas, il y a une barrière financière, mais ce matériel est en vente, il est accessible aux non-professionnels, exactement, strictement le même, sans le contexte, sans la personne qui va exactement te dire comment utiliser ce matériel-là. Donc, la question qui subsiste finalement dans notre interrogation du jour, c'est est-ce que ce matériel que tu peux acquérir, est-ce que déjà il va faire de Arnaud Manzanini un meilleur Arnaud Manzanini? Est-ce que si tu poses ton open au garage et que tu prends le vélo de Ghana, est-ce que tu as un meilleur cycliste demain? Ça, c'est une question qu'on peut se poser, étant donné que tu ne bénéficieras pas du contexte, parce que je te l'annonce, en fait, tu n'es pas pris, au fait, sur le Pro Tour et l'équipe Education First. Je suis navré. Mais donc, est-ce que tu vas pouvoir exploiter ce matériel? Est-ce que ce matériel va te rendre plus performant, ou est-ce que tu serais plus performant avec un matériel plus adapté à qui tu es et le contexte dans lequel tu vas utiliser le matériel? Et c'est ça la vraie question. En tout cas, à mon sens et de mon point de vue, la vraie question, c'est ça. Est-ce que ce matériel auquel on a accès est bon pour nous?
Alors, tu sais, moi, je pense que ça va faire sourire les gens qui écoutent et avec lesquels j'ai déjà échangé sur ce sujet. Le matériel, c'est très, très personnel. Moi, je regarde aussi beaucoup le côté esthétique. C'est pour ça que quand je te réponds Education First, c'est parce que je trouve cette équipe un peu fun. Non, pas du tout pour le matériel, en fait. C'est pour l'image qu'elle dégage. Pas du tout pour le matériel. Mais après, moi, je préfère être. Alors là aussi, c'est très personnel, mais je préfère avoir un ensemble, notamment un vélo. Et des roues stylées, que j'appelle moi stylées, c'est un bel ensemble. C'est pour ça que tu ne me verras jamais avec des jantes plates, par exemple. Moi, j'aime des jantes hautes. Que bon, je préfère être beau que bon. Voilà, tu vois.
Bien, on est dans le côté sublime de la subjectivité.
Voilà,
Écoute,
si je suis pas bon, c'est pas très grave.
quand je te vois rouler avec tes roues hautes, je me dis qu'effectivement, si tu allumais tous tes capteurs, tu serais peut-être plus performant avec des jantes moins hautes,
C'est
fini,
possible, c'est
surtout
possible.
pour ta pratique. Mais tu te fais plaisir. Et alors, c'est pas moi
Exactement.
qui vais dire que on doit faire passer ce point-là en dernier. Surtout pas, je crois pas. Mais tu connais mon avis sur le sujet et comment j'oriente ma pratique et comment j'oriente les produits que je propose et la façon que j'aime promouvoir de faire du vélo. Donc, très clairement, le côté esthétique, il joue, le côté plaisir joue, tout ça, chacun fait son mix. Ce qui est très clair, c'est que ce que moi, je peux constater au quotidien, c'est que le cycliste lambda, si tant est qu'on puisse en donner une définition, mais quelqu'un qui est en bonne capacité physique, en bonne condition physique, qui fait du vélo pour se faire plaisir jusqu'à celui qui va aller chercher de la performance pour le plaisir ou de la performance sur des épreuves ponctuelles, dans tous ces cas-là, alors, je n'ai que 5 ans d'expérience et je vois autant de clients que je peux en voir, mais dans tous ces cas-là, moi, je distingue une tendance qui est que souvent, ce pratiquant lambda, tel que j'ai essayé de le définir là, est plus performant avec un matériel qui est assez largement différent du matériel des pros. Il va être plus performant. Alors, j'essaye de donner des pointeurs, d'accord ? N'hésite pas à me contredire ou à m'interroger, mais il va être plus performant avec des vélos moins rigides, il va être plus performant avec des vélos où le drop sera moins important, il va être plus performant avec des manivelles plus courtes, il va être plus performant avec des développements plus courts, il va être plus performant avec des pneus plus larges, et il va être plus performant, ça c'est pour toi, avec des jantes moins hautes. Pourquoi, si j'essaie d'expliquer, et on va pas pouvoir rentrer dans la finesse de ces choses-là. Alors, ce que je donne là, c'est pas juste un avis absolument personnel, c'est quand même nourri par des constats. Et puis, on a parlé il y a pas longtemps des objets connectés, des capteurs, etc. Il y a quelque chose qui permet de matérialiser ça. C'est ces segments ou cette mesure de performance sur des parcours donnés. Chacun a ses parcours répétitifs sur lesquels il va. Connaît à peu près sa forme et est capable de voir qu'avec tel ou tel vélo, il réalise un meilleur temps. Bon. Alors, ce n'est pas une analyse statistique ou scientifique extrêmement nette et méthodologique, etc., mais ça donne de la tendance. Un cycliste lambda, et je vais de manière complètement volontaire forcer le trait, ce cycliste lambda va être plus performant si on prend un cadre cycliste lambda cyclosportif, il va être plus performant avec un vélo en acier avec une géométrie plutôt typée endurance et des pneus de 28 ou 32 que sur un vélo ultra rigide et ultra léger avec des profils avec des jantes avec un profil de 60 et des pneus de 25 gonflés à 8 bars. Le vélo, il est plus léger, il est plus orienté performance, et pourtant, pour le cycliste lambda, il va s'avérer, au global, le couple des deux va être moins performant que quand le cycliste lambda fait corps avec un vélo acier, avec des roues moins hautes et des pneus plus larges, tels que je l'ai décrit. Pourquoi ? Il y a beaucoup de probabilités, il y a beaucoup de chances que ces probabilités s'avèrent pertinentes, mais il y a le confort, on en a déjà parlé. Je renvoie les gens à la liste des podcasts.
Aux différents épisodes qu'on a fait.
Refaire les podcasts dans les podcasts.
Effectivement, voilà. Sur le confort et la performance. Ouais.
Voilà. Mais le vélo de Ghana, il est fait pour un gars qui va lui balancer plusieurs centaines de watts en continu pendant plusieurs dizaines de minutes. Il ne tient pas du tout compte du fait... que ça fasse mal au bonhomme qui est sur le vélo ou pas. Il faut que ça envoie, il faut que ça réponde. On pédale en force. On est dans une exploitation de l'outil par le sportif. Et donc ça suppose l'inverse. Et ça suppose un niveau de forme et un contexte si on veut pousser la performance au bout, qui est celui qu'on a donné en introduction. Et donc quand le cycliste lambda qui n'a pas la même forme tous les jours, qui n'a pas le même poids tous les jours, qui ne s'entraîne pas dans les mêmes conditions tous les jours, va monter sur ce vélo-là, la variabilité ou l'écart type de performance qu'il va rencontrer sur ce vélo est déjà bien plus important. Et ça ne va pas lui permettre d'exploiter l'outil à fond. Et donc, les résultats peuvent être contre-productifs. si on a un vélo qui est plus adapté à son niveau de puissance, à son niveau de souplesse, à son niveau de carburation et à son contexte, il va être capable de plus performer. C'est assez courant pour moi d'accueillir des cyclistes qui viennent du premier type de vélo, donc un vélo qui va ressembler au vélo du Tour de France, alors parfois avec les quelques années de décalage, parce que en général, tu te payes le vélo de ta star d'il y a 4 ans parce que le prix a baissé. Ou... Voilà, c'est quelque chose qu'on rencontre souvent. J'ai beaucoup de gens, de clients qui viennent de ça et qui, motivés par soit une envie de découverte des nouveaux vélos de route qu'on peut proposer ou des nouveaux vélos un peu plus polyvalents qu'on peut proposer, soit ça, soit motivés par cette envie de découverte, soit motivés par une augmentation de l'inconfort qu'ils subissent quand ils font leur sortie vélo, vont venir vers un vélo qui finalement va être plus adapté, plus, je cherche le mot français, je suis désolé, mais je le trouve pas, mais plus compliant, tu vois, si j'utilise le terme anglais, des fois ça m'arrive de plus retrouver les mots français, mais je me demande si, ouais, non, je chercherai, on le mettra en commentaire, mais vont se retrouver à quitter un vélo en carbone ultra rigide, ultra orienté performance pro, et sur le même circuit, passer l'effet lune de miel et nouveau vélo, parce que des fois, l'avenue d'un nouveau vélo donne des ailes sur une sortie, mais passer ça, passer cette première semaine, vont quand même aller tomber des segments Strava ou autres que tu veux, chacun mesure sa performance comme il veut, mais ils vont passer des étapes en se disant, mais mince, j'avais un vélo de route en carbone à pneus de 25, je caricature, hein, ne me jetez pas la pierre, mais j'avais un vélo de route en carbone à 7 kilos avec des pneus de 25. Ça fait 5 ans que je roule le même parcours. J'ai mes scores et je suis une locale légende ou pas, mais j'ai mes scores. Et là, je suis passé sur un vélo en acier, en alu ou en carbone, mais orienté différemment avec une pratique beaucoup plus d'endurance avec des pneus de 35. Et je viens de gagner 5%. Alors que j'ai vieilli, alors que j'ai. Et des fois, ils s'interrogent eux-mêmes. Ils se disent, mais comment, pourquoi? Alors, c'est multifactoriel, donc voilà, je mesure tout ce que je dis, mais en tout cas, ce qu'on peut attester, c'est qu'ils ne sont pas moins rapides, donc il y a quand même des questions à se poser. Donc, ma position, tu l'auras comprise, c'est que sans le contexte et sans le bonhomme qui va avec le vélo, sans cette adéquation ou cette congruence entre l'outil et le pratiquant, eh bien, il ne peut pas y avoir la maximisation de la performance, puisqu'on ne peut pas détacher les deux. Donc, le max de performance, la bonne recette, la congruence entre l'outil et l'utilisateur de l'outil, c'est quelque chose qu'on doit adapter. Et quand on est professionnel ou non professionnel, les paramètres ne sont pas les mêmes, parce qu'il n'y a pas le même contexte. Ça, c'est ma vision de la chose sur la question que tu me poses.
C'est ce que tu
Voilà.
disais en introduction à propos du contexte et tu viens de nous le détailler, c'est dans quel contexte on utilise le matériel en fait.
Voilà. Donc, on a, et la France, elle fait. Alors, c'est le pays du Tour de France. Et donc, on a toujours l'impression que les gens vont acheter les mêmes vélos que le Tour de France. D'ailleurs, il y a des gens qui le verbalisent comme ça. Hein. Moi, je veux le vélo du Tour de France. Tu disais que tu voulais le vélo de Ghana tout à l'heure. Mais c'est classique. Combien de magasins qui vendent ces grandes marques?
J'admire effectivement la puissance développée par cet athlète et on parle de force, effectivement, il a une force incroyable, mais quand tu le regardes, c'est tellement fluide quand tu vois sa cadence, qu'il envoie un nombre de watts incroyable. C'est juste, de tous les. Moi qui suis plutôt un rouleur, de tous les grands champions de contre-la-montre, bah, c'est celui qui m'impressionne le plus.
Il est impressionnant, tout à fait. Mais voilà, il y a plein de gens qui rentrent dans le magasin et qui disent, je veux le même vélo que Sagan, je veux le même vélo que Ghana. Et donc, c'est accessible et c'est une part de rêve qu'on vend aussi.
Bien
Alors, est-ce
sûr,
que ces vélos sont
complètement.
adaptés
Complètement. On parle de
à ces
marque,
gens?
hein, d'appartenance à une marque, hein,
Voilà.
aussi, hein.
Voilà. Donc, moi, je ne le crois pas. Et alors, tout à l'heure, si je peux me permettre d'illustrer par quelque chose qui va complètement aller dans mon sens et qui vient de la marque qu'on a peut-être citée en la décriant tout à l'heure, c'est cette marque qui fait office de rouleau compresseur parfois sur le circuit, c'est Spe, Specialized. Specialized, il propose le Tarmac, tu as le même vélo que Sagan, et en fait, ils ont derrière des vélos dans leur gamme qui est pléthorique, ils ont des vélos qui sont beaucoup plus adaptés à notre définition du cycliste lambda, mais qui sont beaucoup moins poussés en termes de marketing. Et comme on est que tous les deux, je vais me servir de toi, Arnaud, mais je te parie une très bonne bouffe dans le meilleur restaurant végétarien de Lyon, parce que je crois que tu reviens bientôt, donc ce sera l'occasion que tu m'invites, que tu seras plus performant sur un Roubaix que sur un tarmac, que tu seras plus performant sur un Aetos que sur un tarmac. Et tu vois, cette marque dont on parle depuis le début, Spé, elle est arrivée en fin d'année dernière ou en tout début d'année avec ce concept d'Aetos, qui est un vélo qui est ultra léger, où on est allé vraiment faire des modélisations de dingue en travaillant aux éléments finis, etc., pour aller regarder où on avait besoin de rigidité, où on avait besoin de ressort. Tu te rappelles le podcast sur les matériaux de cadre et dont je parlais de l'effet ressort et de ce stockage et réutilisation de l'énergie qu'on va mettre dans le pédalage, qui n'est pas la question des pros, parce que c'est de la force en permanence. Donc, on a moins d'osmose que d'exploitation. Et ben, ils sont allés mettre ça dans ce vélo et ils ont orienté ce vélo pour plaisir et performance. Et ben, je suis prêt à parier que tu es plus performant sur l'Aetos que sur le tarmac. Ça te surprend ce que je te dis ou pas?
Bon, alors, avec un regard sur Spé, qui est quand même une belle marque, effectivement, le tarmac, je crois qu'il y a quelques temps que j'ai compris que je n'avais plus les watts et pour l'optimiser, parce que là, pour le coup, c'est vraiment un vélo, pour moi, très racé, très clairement. Mais l'Aetos, pour avoir déjà roulé avec des personnes qui étaient sur celui-ci, il est complètement épuré. Et les sensations, effectivement, qu'ils ont. En plus, ils ont vachement optimisé. Alors ça, on parlait de transmission dans un épisode, mais je trouve qu'il y a des nouveaux braquets, moi, qui arrivent aujourd'hui, avec des dentures plus petites derrière, donc des braquets plus petits aussi devant. Donc toute cette évolution est très, très intéressante. Et bon, voilà, on arrive sur la fin de cet épisode. JP, c'était très complet une nouvelle fois. Matériel professionnel, non professionnel, comment l'aborder. Tout dépend, comme tu l'as dit, du contexte, très intéressant. Et puis, je te souhaite un bel été. On se retrouve dans la tête d'un cycliste dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode, mais ensemble JP pour le mois d'août, pour à nouveau apporter conseils, informations, vues d'ensemble dans le paysage cycliste sur tout ce qui concerne le matériel.
Je te remercie beaucoup, Arnaud. On a été très générique, généraliste. Que ça encourage les gens à nous envoyer des messages sur des points de détail qu'ils veulent traiter de manière peut-être un peu plus courte. Peut-être que certains pensaient qu'on allait parler des lay-ups de carbone dans les cadres ou dans les cintres. Je crois que c'était pas l'objet. Il y avait tout un contexte à poser.
Bien sûr.
C'est toujours teinté ce qu'on fait, puisqu'on le fait avec notre expérience, nos expériences respectives, Arnaud. Mais j'espère que voilà. Dites-nous, écrivez-nous pour nous dire
quel sujet.
Pour nous dire si vous souhaitez qu'on traite des sujets. Spécifique ou plus en profondeur. En tout cas, j'étais ravi d'échanger avec toi comme d'habitude. Je salue tout le monde et que tout le monde passe un bel été sur le vélo avec de la performance, du confort ou les deux. Et à très très bientôt.
Allez, soyez prudents, à très bientôt, merci.
Salut.